la sagesse humaine et de la sagesse de Dieu. Je rappelle l'épisode à Athènes, quand Jésus, pendant 5 heures, a parlé de la résurrection de Jésus, les Athéniens ont dit ça suffit, va avec tes rêves, va avec tes illusions, nous on découvre pas. Cette opposition entre le langage humain et la sagesse divine est un des thèmes de Saint Paul, puisque lui-même était très instruit de la religion de Dieu et pourtant il s'est trompé. Il s'est trompé. Sa foi n'était que sagesse humaine, compréhension humaine. Ce qui est curieux lorsqu'il nous enseigne cette contradiction entre sagesse humaine et sagesse divine, il parle d'une sagesse divine qui est cachée. C'est embêtant. C'est embêtant de parler comme cela à des gens qui ne demandent qu'à être instruits. Il va même plus loin, il dit, seuls les petits pour comprendre ce langage, alors que les intelligents ne le comprendront pas. Cela, le sens profond leur sera caché. Quel est donc ce plan de Dieu si secret? En fait, le plan de Dieu, c'est de réunir toute l'humanité dans un esprit fraternel et marcher, regarder tous ensemble vers la même mère. Telle est la mission qui a été confiée à Jésus. Si l'homme n'avait pas péché, Jésus serait quand même venu sur la terre et se serait quand même incarné. Sans doute dans d'autres conditions, bien sûr, mais il avait pour tâche de rassembler l'humanité dans la fraternité. Et c'est cela le plan de Dieu. Malgré ou à cause du péché de l'homme, ce plan n'a pas changé du tout. Jésus est donc venu pour nous enseigner ce chemin de la fraternité. Voilà pourquoi, je vais dire, il va entrer dans un exercice théologique extrêmement dangereux. Il y avait dans le judaïsme, toujours aujourd'hui d'ailleurs, deux piliers. Il y a le temple, ce qui en reste, la synagogue, et puis la Torah, autrement dit, les commandements de Dieu, le décalogue. Mais Jésus, c'est terrible, il s'en est déjà pris au temple, lorsqu'il a chassé les mendiants du temple, lorsqu'il a dit détruisez ce temple, je me rebâtirai en 3 jours, il s'en est déjà pris au temple. Mais aujourd'hui, il s'en prend à la Torah. Un petit peu comme s'il citait les commandements de Dieu en disant « On vous a dit que… » Eh bien, moi, aujourd'hui, je vous dis que… » Autrement dit, Jésus est en train de remplacer la Torah. Eh bien, non, pas tout à fait. Il le dit, il n'y a pas un iota de la Torah qui ne sera effacé sans que ce soit accompli. Je ne suis pas venu détruire la Torah. Je suis venu la parachever. Je suis venu lui amener, je veux dire, un degré de perfection que vous ne connaissez pas encore. C'est vrai que beaucoup de chrétiens ont réduit l'évangile à être de grands principes, comme les phares de la fontaine qui, dans les deux dernières phrases, nous donnaient la leçon. Mais cette manière de voir l'évangile fait de nous des orphelins, fait de nous des gens très simples par rapport à l'exigence de Dieu. Quelque part, mais une impossibilité. Réduire l'évangile à la morale, c'est nous réduire à une profonde solitude. Nous devons obéir à Dieu, nous efforcer de comprendre, de correspondre à ses commandements, et cela serait le chemin du ciel. Jésus dit dans le même évangile, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et voilà donc Jésus qui va commencer à commenter la Torah pour la porter plus loin. C'est curieux quand même. Les valeurs chrétiennes auxquelles nous essayons d'obéir ne sont déjà pas faciles, surtout dans notre monde qui commence à les contester. Quand on voit des chrétiens, c'est une facilité. Mais à partir du moment où d'autres n'ont pas les mêmes règles que nous, ça devient compliqué. avec sa présence en disant, oh, vous avez cœur, mais moi je vous dis, je vous offre un chemin de possibilité qui n'existait pas encore à vos yeux. Vous étiez dans votre possible, dans vos limites, dans votre bonne volonté, et à cause de cela, vous ne saviez pas aller plus loin. Et Jésus vient dire, puisque tu n'arrives pas par toi-même, nous allons y arriver ensemble. Et c'est ainsi, adultère, rappelle l'adultère, et puis il conduit l'exigence beaucoup plus loin. Ton regard suffit à te faire connaître l'adultère. Autrement dit, d'une loi qui était une loi, j'allais dire, pour protéger la vie sociale, bien sûr, dans la pensée de Dieu, devient quelque chose de beaucoup plus grand. Tu dois purifier ton cœur pour pouvoir aimer tous ceux que tu vas rencontrer. On ne tombe pas amoureux de sa sœur, normalement. On tombe amoureux de quelqu'un d'autre, d'une autre famille. Autrement dit, la fraternité établit des liens nouveaux entre les personnes, qu'ils sont plus liés sur des engagements, des attirances, des sympathies, des antipathies. Seulement, elles ont leur place, mais plus loin, au-delà, tous ceux qui seront sur ta route se sont susceptibles de devenir ou d'être déjà ton frère ou ta sœur. Jésus continue, si un de tes membres, ton œil, ton talent, peut être source de péché, arrache-les. Autrement dit, enlève les occasions de péché, enlève les lieux de tentation. Sois prudent et une certaine assise pour éviter précisément ces occasions de chute. Et serment, c'est l'engagement. Quand tu t'engages, engage-toi. Ne dis pas oui, mais, sinon c'est ton esprit qui va fonctionner. Ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ta générosité, ce n'est pas ton amour et ta prudence, ton besoin d'assurance, etc. L'enjeu que nous lisons aujourd'hui touche vraiment les racines de notre foi. Il nous faut basculer, comme je le rappelais la semaine dernière, il nous faut basculer littéralement dans la volonté de Dieu pour pouvoir vivre les choses avec Jésus. Quelle fois je vous ai dit, notre plus grand malheur, c'est de braves dignes. C'est de nous regarder en disant, bah, ça va, le Seigneur est quand même content de nous, grosso modo. C'est une erreur. Tant que nous ne sommes pas dans un chemin de sainteté, le Seigneur ne se satisfait pas. Son amour est absolu. Son amour vient nous rencontrer. Son amour vient nous visiter, nous pardonner. Il est miséricorde et nous le dit. C'est à travers nos pauvretés qu'il parvient à nous élever, à nous ressusciter. Que le foi se tenait retenu dans la prédication, tant il est important. Cessons d'être des braves gens. Cessons d'être des braves gens, car cela ne nous permettra pas d'entrer dans le ciel. Nous faut aller au-delà. Nous faut marcher main dans la main avec le Christ ressuscité. C'est lui qui nous donne tout ce don, tout ce qui nous manque. Et si nous avons des tentations, des chemins, etc., il faut revenir. Il est miséricorde. Jamais il ne dira à quelqu'un, tu es trop loin, tu es trop bas, tu es trop... Qu'est-ce que je sais? Jamais. Chaque fois que nous reposerons les yeux vers le Seigneur, ressuscité, crucifié, ressuscité, il reprend alliance comme si c'était le premier jour. Seigneur, mets-nous dans cette loi nouvelle, qui n'est plus un commandement extérieur, mais qui est une parole intérieure que tu inscris en nous, car ta volonté est de demeurer en chacun d'entre nous, de nous enseigner, de nous diriger, de nous conduire au-delà de tout obstacle. Le monde ne juge que d'après le mal, après le péché, après les échecs, etc. Toi, tu ne juges pas. Mais ni en bien, ni en mal, car toi seul es le bien, et c'est par toi seul que nous pouvons progresser. Que ton vie soit avec nous.